France Culture.
Suffit-il donc que tu paraisses de l'air que te fait rattachant tes cheveux, ce geste touchant, que je renaisse et reconnaisse un monde habité par le chant. Elsa, mon amour, ma jeunesse.
Les nuits de France Culture.
Peu de femmes figurent dans le Métron, le grand dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. Ce qui est loin de donner la juste mesure de la place des femmes dans l'histoire des luttes sociales. Mais c'est un fait que pendant trop longtemps, les postes de responsabilité des centrales syndicales ou des partis politiques ont été accaparés par des hommes. Peu de femmes figurent donc dans le Métron, mais vous allez entendre l'une d'entre elles dans cette émission de 1990, quatrième temps d'une série de 5 numéros des Chemins de la connaissance consacrés aux fragments d'une mémoire ouvrière. C'est Suzanne Mateline qui s'exprime ici au micro d'Alain Astaud pour conter son engagement anarcho-syndicaliste et ses combats politiques. C'était le 27 septembre 1990.
Quatrième fragment de mémoire ouvrière que vous donne à entendre les chemins de la connaissance depuis le début de cette semaine, c'est celui de Suzanne Mateline. Comme les précédents témoins et acteurs de cette histoire, Suzanne Mateline figure dans le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. Dictionnaire entrepris par Jean Métron dans les années 50 et aujourd'hui encore poursuivi par une kyrielle d'historiens qui refuse tout simplement de jeter l'ouvrier avec l'eau du bain révolutionnaire. Suzanne Mateline a été une militante syndicale et politique. Membre du Parti communiste depuis 1935, elle le quitte en 1981 au moment de l'invasion de l'Afghanistan. Suzanne Mateline est née le 28 août 1914 à Paris.
Je suis née le 28 août 1914 à Paris. Et je dois dire que mon activité de militante s'est en grande partie déroulée sous le nom de Suzanne Bory, étant donné que je n'étais pas mariée à cette époque.
Dans quel climat familial avez-vous passé votre enfance et votre adolescence ?
Eh bien, mon père est mort de la grippe espagnole, j'avais 4 ans, et ma mère le considérait comme une victime de la guerre parce que cette grippe espagnole qui a fait tant de morts, pour elle, était le résultat de cette guerre épouvantable qu'elle avait subie avec effroi. Alors, mon père était ajusteur-outilleur à Paris, et il exerçait en usine. Il était considéré comme un des meilleurs ouvriers de cette catégorie. Et il était en même temps très soucieux de faire respecter son individu et sa catégorie d'être humain. Par conséquent, il exigeait toujours d'être traité convenablement. Et je citerai un petit exemple. Il estimait que d'aller travailler en bleu, comme ça se faisait énormément à cette époque, ne correspondait pas du tout à l'idée qu'il se faisait de sa condition d'homme. Et lui partait en chemise blanche, cravate et costume, ce qui était tout à fait étonnant à cette époque. Et en même temps, il exigeait donc des vestiaires qui n'existaient pas toujours pour pouvoir se changer et revêtir son bleu de travail afin d'exécuter son activité d'ouvrier. À l'époque, il était surtout, on peut dire, anarcho-syndicaliste, mais il n'était pas vraiment militant. Il se bornait à développer des idées générales et à exiger, par exemple, d'être respecté.
Et votre mère ?
Ma mère, c'était la fille d'un horticulteur d'Argenteuil qui était très jeune lorsqu'elle a quitté ses parents. Et a toujours voulu faire respecter sa liberté en tant que femme qui ne se soumettait pas aux conditions des femmes de cette époque. Elle considérait que les femmes, finalement, devaient avoir le droit de choisir leur activité et d'avoir la possibilité de subvenir à ses besoins. Elle exprimait toujours des idées qui faisait ressortir sa volonté de se faire respecter en tant que femme et de ne pas rester sous la coupe d'un mari. D'ailleurs, dans mon enfance, j'ai vu pas mal d'amis de ma mère qui se sentaient sous puissance de mari comme à l'époque, et qui était par là même complètement ligoté, ce qui m'avait énormément frappée à ce moment-là. Tout enfant, et pendant très très longtemps, j'aurais voulu être institutrice, mais les circonstances ne s'y sont pas prêtées. Et ensuite, je suis devenue modiste, mais un peu par hasard, parce que j'avais une tante modiste dans la famille. J'avais 15 ans lorsque j'ai commencé à travailler à Paris. Mais ça a duré peu de temps parce que j'ai dû suivre mes parents qui sont partis dans le Midi. À 15 ans et demi, j'avais déjà quitté Paris.
Donc à 15 ans, votre premier métier, c'est modiste.
Oui, modiste, oui, c'est ça. J'avais appris mon métier dans une école parce que ma mère ne voulait pas que je ramasse les épingles dans les ateliers. Donc, il existait une école municipale, rue Ganneron d'ailleurs, qui existe encore, et qui enseignait les métiers féminins, qui à l'époque étaient la corsetterie, la couture, la broderie, la mode, principalement. Parce qu'on n'imaginait pas qu'une femme puisse exercer beaucoup d'autres métiers, à part secrétaire, ce qui était déjà quelque chose de particulier, ou comptable, qui était particulier et qu'on n'avait pas du tout envisagé pour moi.
Alors comment se présentait à l'époque la corporation des modistes, des chapeliers ?
Eh bien, ça représentait d'abord beaucoup de gens. Je ne peux pas vous donner le chiffre, mais vraiment par milliers et par milliers. Il y avait des chapeliers qui faisaient du travail un petit peu comme les travailleurs de l'habillement en confection. Il y avait les chapeliers qui faisaient du travail de haute façon, sur mesure et... Et il y avait la même chose, des modistes qui faisaient le haut travail, on appelait ça la haute mode, des modistes qui faisaient le travail moyen et d'autres qui faisaient le travail en série. Et nombreux étaient ces ouvriers et ces ouvrières qui étaient payés à la pièce et très petitement. Moi, j'étais payée à l'heure lorsque j'ai commencé à travailler avec une petite qualification. Et il faut dire qu'à Paris, le syndicat de la chapellerie et par voie de conséquence de la mode était suffisamment organisé pour faire respecter certaines catégories de salaires qui n'étaient quand même pas trop trop lamentables. Dans les ateliers de chapellerie, il y avait des femmes qui simplement posaient les garnitures. Et dans la mode, proprement dite, c'était uniquement des femmes. Avec quelquefois un homme pour diriger ou superviser la maison, ce qui était d'ailleurs très rare, c'était des femmes en général. Il y avait un syndicat de la mode, des modistes, complètement séparé de celui des chapeliers. Mais tous les deux étaient réunis dans une fédération qui était la Fédération de la Chapellerie. Naturellement, je parle pour les syndicats organisés qui, pour les modistes, n'existaient qu'à Paris en réalité. En ce qui concerne la province, où j'ai travaillé par la suite, puisque je me suis rendue dans le Midi avec mes parents, comme je disais, vers l'âge de 15 ans et demi, c'était tout à fait différent. Les syndicats de femmes, en somme, n'existaient pas, aussi bien dans l'habillement que dans la mode, ou qu'ailleurs, parce que même dans les usines, il était extrêmement difficile d'être organisé dans un syndicat. D'ailleurs, la chasse aux délégués était ouverte en permanence, et ceux qui osaient se manifester étaient licenciés très très vite, avec même souvent une note sur ce qu'on appelait le carnet B avec à l'encre rouge. On appelait ça comme ça, c'est-à-dire que votre activité dans une entreprise ou dans une usine était connue de l'ensemble du patronat de cette branche sur le territoire où vous risquiez de vous embaucher par la suite.
En fait, c'est un petit peu ce qui vous est arrivé. Alors, vous travaillez dans une maison de modiste, là vous auriez très bien pu faire, comme on dit, votre place au soleil. Il n'y avait pas de syndicat et vous cherchez à en créer un. Qu'est-ce qui vous poussait à créer une organisation syndicale ?
Dans l'entreprise à laquelle vous faites allusion, il y avait une dizaine d'ouvrières et je m'occupais de l'organisation du travail et j'allais faire les essayages au salon. C'était une maison qu'on appelait haute mode, c'est-à-dire qu'on faisait des chapeaux très chers. J'étais payée très peu et on me baptisait première avec beaucoup d'emphase aux yeux de la clientèle. Forte de l'idée que j'avais de la nécessité absolue de faire quelque chose pour que les individus puissent s'épanouir et pensant aussi que jusqu'à présent nous avait mené à des situations d'épreuves de force qui se terminaient quand il y avait des manifestations par des coups de matraque sur les manifestants qui ne faisaient que réclamer une place dans une vie bien petite pourtant. Et en 1935, mes idées se sont précisées et j'ai voulu contribuer à une lutte qui commençait à s'organiser. J'ai donc rejoint le Parti communiste fin 1935 parce que je pensais qu'il fallait absolument qu'une organisation structurée et avec des gens résolus et décidés œuvrer avec honnêteté, il fallait absolument que cette organisation existe pour obtenir enfin un peu de respect pour ceux qui se donnaient tant de mal à travailler. Je fréquentais la Bourse du Travail parce que je cherchais à trouver justement quelque chose à quoi me raccrocher pour me sentir un petit peu plus ouverte vers l'avenir, c'est-à-dire de trouver des raisons d'espérer. Et à l'époque, il existait des organisations anarchistes qui donnaient ce qu'on appelait des soirées où on discutait. Et il existait justement des soirées avec ce qu'on appelait des cœurs parlés, c'est-à-dire que c'était les idées qui devaient se développer dans la réunion et qui étaient retransmises par une manière de s'exprimer à l'antique, ce qui était assez emphatique mais extrêmement prenant.
Avant les grèves de 1936, se crée un syndicat de l'habillement. Vous êtes une des premières à y adhérer. Eh bien, naturellement, vous participez à ces fameuses grèves de 1936. Et cela, encore une fois, va vous coûter très cher, parce qu'une nouvelle fois, vous allez perdre votre emploi. Vous pouvez un petit peu nous raconter comment cela s'est passé ?
Eh bien, j'avais perdu une première fois donc mon emploi, parce que je pensais que il était bien de parler avec mes compagnes d'atelier et de leur exprimer un peu mes idées. Et ça, naturellement, ça n'avait pas plu à mon employeur, dont la chose était venue aux oreilles. Et elle n'avait pas manqué de me renvoyer très très vite, bien que me considérant comme la meilleure ouvrière de son atelier. J'ai difficilement retrouvé du travail, mais enfin, j'avais à nouveau de quoi gagner ma vie. Et les grèves de 1936, la victoire du Front populaire est arrivée dans la plus grande joie de tous. Et pour fêter ce résultat, on a décidé de faire une grande manifestation à Marseille qui s'est organisé au départ de la préfecture. Or, la maison dans laquelle je travaillais avait un balcon qui donnait juste sur la place de la préfecture. Et comme j'étais en tête du cortège de l'habillement, que ma patronne était au balcon, elle m'a vue et naturellement n'a pas pu supporter qu'une personne travaillant dans son atelier ose manifester sa joie de la réussite d'élections pourtant légales et tout à fait normalement réalisé. Et alors des grèves d'usines se sont déclarées et ça a été quelquefois très difficile d'obtenir des résultats convenables. Enfin, après des luttes assez longues qui ont duré un mois et demi quelquefois, ou même plus, nous avons réussi à signer des conventions collectives par branche et les salaires ont augmenté de 50 et même quelquefois de 100%. Et pour ces pauvres travailleurs à domicile, les salaires ont augmenté encore plus de deux fois. C'était très, très extraordinaire de vivre une époque pareille. Je voudrais citer une petite anecdote. Les ouvriers à domicile venaient nous trouver en nous disant, vous savez, on a peur de nos patrons. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour leur dire que c'est à cause du syndicat qu'on ne peut pas travailler ? Très difficile puisqu'ils travaillaient chez eux. On avait donc mis sur pied une idée. Par petits groupes, on montait chez les travailleurs à domicile qui se trouvaient dans les vieux quartiers de Marseille et quelquefois à 5-6 dans un même immeuble, à 5-6 appartements dans un même immeuble. Et on allait leur chercher leurs canettes de machine à coudre, qu'on mettait dans un petit papier, qu'on étiquetait. Et on, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec plusieurs montagnes de canettes dans les coins du bureau de la Bourse du Travail, que les ouvriers à domicile sont venus rechercher une fois la grève terminée. Et je dois dire que j'ai vu là des logements absolument épouvantables, insalubres, où les gens couchaient sur des matelas dans la même pièce qui leur servait d'atelier dans la journée, avec des enfants, avec tout le monde dans la même pièce. C'était complètement terrible pour moi à voir tout ça. Et c'est là que je me suis trouvée confirmée dans les idées que j'avais de l'impérative nécessité de faire craquer tout ce système qui opprimait les gens. En somme, maintenant, j'ai le sentiment d'avoir été, avec tous mes camarades, une résistante à un système et à des gens qui occupaient l'espace vital d'autres individus, et cet espace auquel ils avaient droit était complètement mangé par les tenants de la force et du pouvoir qui existaient à cette époque.
Femme syndicaliste dans les années 30, ça signifiait quoi? Comment vous étiez perçue par votre famille, par l'entourage, par la société?
Ma famille n'était pas contre le fait que je milite, bien qu'elle aurait préféré que je choisisse une autre voie. Mais la société nous traitait encore de pétroleuses, et quand on s'exprimait à l'extérieur, les femmes ne manquaient pas de nous crier « Mais allez donc raccommoder vos chaussettes, allez faire votre soupe, qu'est-ce que vous faites là dans la rue, c'est honteux ». Et en même temps, puisque nous étions des femmes libres, on nous taxait de tous les excès de toutes sortes, chose qui était tout à fait faux, car au fond, nous étions des gens assez consciencieux et raisonnables pour ne pas user notre liberté à tout bout de champ et n'importe comment. Mais nous revendiquions cette liberté, d'abord comme être humain, mais aussi comme femme, puisqu'on était privé de tout. Nous n'avions pas le droit de vote, nous n'avions pas le droit de faire ressortir nos droits dans la famille vis-à-vis du mari, puisque c'était le mari qui avait absolument la main mise sur toutes les activités et l'organisation matérielle du foyer, sans que la femme n'ait légalement quelque droit que ce soit. Donc, nous voulions la liberté d'avoir des enfants quand on le voulait. Or, à cette époque, on voyait énormément de filles dans les ateliers qui s'étaient fait surprendre, parce qu'elle est naïve aussi, parce qu'on éduquait les filles dans la naïveté à ce moment-là. Et donc, elles se faisaient surprendre, elles se trouvaient enceintes, et si elles gardaient leur bébé, elles étaient honnies par l'entourage et mises au banc de la société. Si elles voulaient avorter, elles le faisaient au péril de leur vie, et en étant obligées de s'endetter pour payer la personne qui les faisait avorter. C'était donc une situation doublement difficile, puisque ouvrières et femmes, doublement oppressées, doublement opprimées.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 septembre 1990. À suivre.